Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 6 juin 2017. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que même après 25 ans de bourse, je suis toujours impatient comme un gamin de rouvrir mon écran après 4 jours d'absence. Impatient parce qu'au fond de moi, j'ai l'espoir qu'il se soit passé un truc et que ça soit super excitant de revenir parce qu'il y a plein de choses à dire. Et puis finalement, j'allume mon écran et je me dis que j'aurais mieux fait de rester couché parce qu'il ne s'est rien passé. Vendredi dernier, les chiffres de l'emploi sont sortis nettement en dessous des attentes. On attendait 185 000 nouveaux jobs créés et c'est sorti à 138 000. Franchement, ça ne devrait pas nous changer la vie, si ce n'est nous générer la publication de 3-4 articles sur le fait que l'économie américaine n'est peut-être pas si en forme que cela et que ça pourrait finalement nous déclencher la correction tant attendue que l'on nous promet depuis des mois. Que dis-je ? Depuis des années. Mais comme dit le proverbe, plus on désire une chose, plus elle se fait attendre. Damned, je deviens mystique, c'est dire s'il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Toujours est-il que ce genre de nouvelles, les non-farm payrolls américains plus faibles qu'attendus, laissent toujours suggérer qu'il pourrait se passer un truc. Même si la plupart des intervenants savent, sans se l'avouer, que ces chiffres ont à peu près la même valeur que quand un politicien vous dit « je vous promets que du bonheur ». C'est un ramassis de chiffres manipulés par des comptables à la solde du gouvernement qui n'ont qu'un boulier incomplet pour faire leurs additions. Sans compter qu'historiquement parlant, les économistes ont toujours été aussi doués pour prédire les créations d'emplois que pour allumer un feu avec des silex, un jour de pluie et par grand vent. Toujours est-il que l'on s'est posé brièvement des questions sur la capacité du marché à continuer de monter, surtout que ça fait quand même 7 mois qu'il n'a plus corrigé de plus de 5%. Ça commence à durer, et les adeptes de la théorie du complot de la bulle techno qui va exploser sautent sur chaque occasion de venir peindre le beurre sur la muraille. Pourtant, si l'on regarde le passé, le Nasdaq 100 n'est que 20% au-dessus de sa moyenne mobile des 200 jours. C'est peut-être un détail pour vous, mais en 2000, il était 60% au-dessus de cette même moyenne, ce qui tendrait à penser que la fin n'est peut-être pas aussi proche que l'on voudrait bien nous la vendre. Enfin, tout ça pour dire que je ne sais pas quand tout ce château de cartes va se casser la gueule, mais j'ai quand même l'impression que l'on persiste à un peu trop à pisser contre le vent et que du coup, il y a plein de gens qui vont avoir les chaussures mouillées. Désolé de la formule, mais ça me vient du passé et ça ne peut pas être traduit sous la forme polie. Pour résumer les dernières séances de trading, il ne se passe rien, mais globalement, ça monte. Le S&P 500 s'établit au-dessus des 2400 de manière convaincante. Amazon, Google montent, même si on a connu des spaghettis trop cuits bien plus dynamiques ces dernières années. On constatera cependant que Microsoft semble prendre le relais des 5 FANGs, puisque cette dernière vient juste de prendre 7,5% depuis que l'on a commencé à parler de destitution à la Maison Blanche, ce qui devrait encore faciliter la vie de Bill Gates. Il ne reste donc plus qu'à attendre et voir ce que l'avenir nous réserve, et cette semaine, il nous réserve plein de trucs. Nous allons commencer avec les inventaires pétroliers de mercredi, histoire de voir si le baril va à nouveau aller tester les 45-46 et voir si Goldman Sachs vient encore nous faire une prévision morbide sur le sujet. Puis il y aura l'audition au Sénat de l'ancien patron du FBI qui s'est fait virer par l'agent Orange. Cela promet d'être fun, sachant surtout que on se demande toujours si Trump est un espion bolchevique et dormant ou pas. Nous enchaînerons ensuite avec les élections britanniques et puis la BCE qui nous dira ce qu'elle compte faire avec les taux, probablement rien, mais surtout ce qu'elle pense de son QI et de l'éventualité éventuelle de ralentir la machine et de passer en mode tapering. On baisse les voiles et on rentre au port. La semaine sera donc chargée, sans compter que l'on devrait également continuer à scruter les quelques chiffres économiques qui seront publiés, histoire de voir si la Fed pourrait éventuellement changer son fusil d'épaule et repousser la prochaine hausse des taux de quelques semaines, ce qui paraît tout de même peu probable. Ce matin, Hong Kong est en hausse de 0,3% pendant que la Chine recule de 0,2%, le Japon baisse de 0,5%, l'or vaut 1 287 $ et semble être en train de se tenter une sortie à la hausse. Quant au baril de pétrole, il se traite à 47,18. Hier, lors du Worldwide Developer Conference de San Jose, Apple a dévoilé trois axes sur lesquels il travaille pour l'avenir. Tout d'abord, il y a le HomePod, un haut-parleur intelligent qui va concurrencer l'Echo d'Amazon et le Google Home de Google et qui risque de créer des problèmes à Sonos. Ils ont ensuite parlé réalité virtuelle augmentée et peer-to-peer payment, ce qui devrait permettre aux gens de s'échanger des petits montants directement d'iPhone à iPhone, ce qui devrait largement simplifier le racket dans les écoles et la possibilité de payer les chanteurs roumains dans le tram 12 le matin si l'on n'a pas pas de monnaie sur soi. Dans le Barron's, on apprend que Google, Alphabet, Amazon et Apple sont les trois compagnies les plus respectées aux USA. Comme c'est étonnant, le journal pense également que pour connaître la direction du marché pour les mois à venir, il faut commencer à observer les small caps. C'est elles qui pourraient donner le ton, selon le journal. Il pense également qu'eBay pourrait monter de 25% et il recommande d'acheter 6 titres qui payent des dividendes et qui pourraient vous permettre de lutter contre l'inflation à venir. Il s'agit de Atlantia en Italie, Bank of America, Benton Dickinson, CME Group, Johnson & Johnson et Royal Dutch qui ont tous de solides fondamentaux et ont la capacité d'augmenter leurs dividendes. Et puis on apprend aussi qu'Anne Hoare de Greenline Capital est chaud bouillant sur GM, qu'il achète Micron, qu'il a réduit sa position en Apple et qu'il se débarrasse de Yelp. Pourtant, quand on regarde le chart, on se demande si c'est pas l'inverse qu'il faut faire. À noter que le Bitcoin est au plus haut de tous les temps. Encore une fois, il est à 2825 $ et il a repris 50% depuis le 27 mai, soit il y a 240 heures. 240 heures pour monter de 900 $. Tout va très bien, Madame la Marquise. Ce matin, c'est le mot prudence qui prédomine. Les futurs sont en baisse de 0,07%. L'Asie est poussive, l'or casse à la hausse, le pétrole est malade et les bears veulent toujours y croire. Dans tous les cas, ça fait longtemps que l'on attend la fin du monde et elle se fait désirer. Nous, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine raccourcie que je vous souhaite excellente.